Podcast numéro 29, nous continuons notre lecture de la lettre encyclique du pape François, Dilexit Nos, il nous a aimés. Nous sommes donc dans le chapitre 5 et nous lisons aujourd'hui les paragraphes 191 à 204 sur la réparation à la suite de ce que nous avons entendu hier.
La réparation, un prolongement pour le cœur du Christ. Il y a une autre manière complémentaire de comprendre la réparation, qui place celle-ci dans une relation encore plus directe avec le cœur du Christ, sans pour autant exclure l'engagement concret envers les frères dont nous avons parlé.
Dans un autre contexte, j'ai affirmé que Dieu a voulu se limiter lui-même de quelque manière, et que beaucoup de choses que nous considérons comme mauvaises, dangereuses ou sources de souffrance font en réalité partie des douleurs de l'enfantement qui nous stimulent à collaborer avec le Créateur. Notre coopération peut permettre à la puissance et à l'amour de Dieu de se répandre dans nos vies et dans le monde, tandis que le rejet ou l'indifférence peuvent l'empêcher. Certaines expressions bibliques expriment cela de manière métaphorique, comme lorsque le Seigneur s'écrie « Si tu reviens à Israël, c'est à moi que tu reviendras » ou lorsqu'il dit « Face au rejet de son peuple, mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. »
Bien qu'il ne soit pas possible de parler d'une nouvelle souffrance du Christ glorieux, le mystère pascal du Christ et tout ce qu'il a fait et souffert pour tous les hommes participe de l'éternité divine et surplombe tous les temps et y est rendu présent. Nous pouvons dire qu'il a lui-même accepté de limiter la gloire débordante de sa résurrection, de contenir la diffusion de son amour immense et brûlant, afin de laisser de la place à notre libre coopération avec son cœur. Cela est si vrai que notre refus l'arrête dans cet élan de don, tout comme notre confiance et notre offrande de nous-mêmes ouvrent un espace, offrent un canal sans obstacle à l'effusion de son amour. Notre refus ou notre indifférence limite les effets de sa puissance et la fécondité de son amour en nous. S'il ne trouve pas en moi confiance et ouverture, son amour se trouve privé, parce que lui-même le veut ainsi, de son prolongement dans ma vie, qui est unique et ne peut être répété, et dans le monde où il m'appelle à le rendre présent. Cela ne vient pas d'une faiblesse de sa part, mais de son infinie liberté, de sa puissance paradoxale et de la perfection de son amour pour chacun de nous. Lorsque la toute-puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de notre liberté, seule la foi peut la discerner.
De fait, sainte Marguerite Marie raconte que dans l'une de ses manifestations, le Christ lui parla de son cœur passionné d'amour pour nous, qui, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il fallait qu'il les répande. Puisque le Seigneur Tout-Puissant, dans sa liberté divine, a voulu avoir besoin de nous, la réparation se comprend comme une libération des obstacles que nous mettons à l'expansion de son amour dans le monde, par notre manque de confiance, de gratitude et de don de soi.
L'offrande à l'amour. Pour mieux réfléchir à ce mystère, nous sommes à nouveau aidés par la spiritualité lumineuse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle savait que certaines personnes avaient développé une forme extrême de réparation, avec la bonne volonté de se donner pour les autres, qui consistait à s'offrir comme une sorte de paratonnerre pour que la justice divine s'accomplisse. Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Mais, si admirable que soit cette offrande, elle n'en était pas très convaincue. J'étais loin de me sentir portée à la faire. Cette insistance sur la justice divine conduit finalement à penser que le sacrifice du Christ est incomplet ou partiellement efficace, ou que sa miséricorde n'est pas assez grande.
Avec son intuition spirituelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus découvre qu'il existe une autre façon de s'offrir, selon laquelle il n'est pas nécessaire de satisfaire la justice divine, mais de permettre à l'amour infini du Seigneur de se répandre sans entrave. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victimes d'Holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous.
Il n'y a rien à ajouter à l'unique sacrifice rédempteur du Christ. Mais il est vrai que le refus de notre liberté ne permet pas au cœur du Christ de répandre ses flots de tendresse infinie dans le monde. Et cela parce que le Seigneur lui-même veut respecter cette possibilité. Cela troublait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, plus que la justice divine, car pour elle, la justice ne peut se comprendre qu'à la lumière de l'amour. Nous avons vu qu'elle adorait toutes les perfections divines au travers de la miséricorde et qu'elle les voyait ainsi transfigurées, rayonnantes d'amour. Elle disait « La justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. »
C'est ainsi que naît son acte d'offrande. Non pas à la justice divine, mais à l'amour miséricordieux. Je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de m'en consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas seulement, par une confiance totale, de permettre au cœur du Christ de répandre la beauté de son amour dans son cœur, mais aussi de faire en sorte qu'il rejoigne les autres et transforme le monde à travers sa vie. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi mon rêve sera réalisé. Les deux aspects sont indissociables.
Le Seigneur accepta son offrande. Elle exprimera un peu plus tard son amour intense pour les autres et soutiendra qu'il provient du cœur du Christ qui se prolonge à travers elle. C'est ainsi qu'elle écrira à sœur Léonie « Je t'aime mille fois plus tendrement que ne s'aiment des sœurs ordinaires, puisque je puis t'aimer avec le cœur de notre céleste époux. » Et quelque temps après, elle écrira à Maurice Bellière « Ah, que je voudrais vous faire comprendre la tendresse du cœur de Jésus, ce qu'il attend de vous. »
Intégrité et harmonie. Sœurs et frères, je propose que nous développions cette forme de réparation qui consiste, en définitive, à offrir au cœur du Christ une nouvelle possibilité de répandre en ce monde les flammes de son ardente tendresse. S'il est vrai que la réparation implique le désir de compenser les outrages commis contre l'amour incréé par les oublis ou les offenses, le chemin le plus approprié est que notre amour donne au Seigneur une possibilité de s'étendre en échange de toutes ces fois où il a été rejeté ou nié. Cela se produit en allant au-delà de la simple consolation, au Christ dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, et se traduit par des actes d'amour fraternel par lesquels nous guérissons les blessures de l'Église et du monde. De cette manière, nous offrons de nouvelles expressions de la puissance restauratrice du cœur du Christ.
Les renoncements et les souffrances qu'exigent ces actes d'amour pour le prochain nous unissent à la passion du Christ, et en souffrant avec le Christ, en cette crucifixion mystique dont parle l'apôtre, nous recevrons les fruits plus abondants de propitiation et d'expiation pour nous et pour les autres. Seul le Christ nous sauve par le don de lui-même sur la croix. Seul il rachète, car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. La réparation que nous offrons est une participation que nous acceptons librement à son amour rédempteur et à son unique sacrifice. Ainsi, nous complétons dans notre chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église, et c'est le Christ lui-même qui prolonge à travers nous les effets de ce don total d'amour.
Les souffrances sont souvent liées à notre ego blessé. Mais c'est précisément l'humilité du cœur du Christ qui nous montre le chemin de l'abaissement. Dieu a voulu venir à nous en s'humiliant, en se faisant petit. L'Ancien Testament nous l'enseigne à travers diverses métaphores, montrant un Dieu qui entre dans la petitesse de l'histoire et se laisse rejeter par son peuple. Son amour se mêle à la vie quotidienne du peuple aimé, et devient le mendiant d'une réponse, comme s'il demandait la permission de montrer sa gloire. D'autre part, peut-être une seule fois notre Seigneur Jésus a-t-il parlé de son cœur. C'était pour mettre en évidence sa douceur et son humilité, comme s'il signifiait que c'est seulement de cette manière qu'il veut conquérir l'homme. Lorsque le Christ dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur », il nous indique que pour s'exprimer, il a besoin de notre petitesse, de notre abaissement.
Il est important de noter dans ce que nous avons dit plusieurs aspects inséparables. En effet, ces actes d'amour du prochain, avec les renoncements, les abnégations, les souffrances et les peines qu'ils comportent, remplissent cette fonction réparatrice lorsqu'ils sont nourris par la charité du Christ qui nous rend capables d'aimer comme il a aimé. Et c'est de cette manière qu'il aime et sert à travers nous. Si d'un côté il semble s'abaisser, s'humilier parce qu'il a voulu montrer son amour à travers nos gestes, d'un autre côté, son cœur est glorifié et manifeste toute sa grandeur dans les œuvres de miséricorde les plus simples. Un cœur humain qui fait place à l'amour du Christ par une confiance totale et qui lui permet de se déployer dans sa vie par son feu, devient capable d'aimer les autres comme lui, en se faisant petit et proche de tous. C'est ainsi que le Christ se désaltère et répand glorieusement en nous et à travers nous les flammes de sa tendresse brûlante. Remarquons la belle harmonie de tout cela.
Enfin, pour comprendre cette dévotion dans toute sa richesse, il faut ajouter, en reprenant ce que nous avons dit sur sa dimension trinitaire, que la réparation au Christ, en tant qu'être humain, est offerte au Père par l'action de l'Esprit-Saint en nous. Notre réparation au cœur du Christ s'adresse donc en définitive au Père, qui se réjouit de nous voir unis au Christ lorsque nous nous offrons par lui, avec lui et en lui.
Nous avons donc lu les paragraphes 191 à 204. Prenons conscience que le cœur de Jésus a besoin de nous pour diffuser son amour brûlant, que nos refus, nos indifférences limitent au contraire l'expansion de son amour dans le monde. Pour cela, nous pouvons méditer et peut-être apprendre l'acte d'offrande de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est au paragraphe 198. Bonne journée, à demain.